Après Flaubert, nous allons évoquer aujourd'hui avec vous, Henri Van Lier, un nouveau grand moment de notre histoire de la littérature. En effet, Verlaine et Rimbaud interviennent dans une coupure majeure de l'histoire.
Nous avons déjà rencontré, on pourrait dire, des petites coupures. Celle, par exemple, où nous sommes passés de la manufacture avec Sade à l'industrie avec Chateaubriand et Balzac. Des coupures plus importantes aussi, comme celle de la chanson de Roland, qui, après l'artisanat rationnel antique, mais non transformateur, donc cyclique, introduit l'artisanat transformateur et donc ce qu'on peut appeler la civilisation occidentale, faisant suite à la civilisation méditerranéenne. Le moment où nous voyons émerger Verlaine et Rimbaud, donc dans les années 1870, un peu avant, un peu après, la coupure est beaucoup plus violente. On pourrait dire qu'il y a un retournement du système perceptif de l'être humain. Depuis grosso modo 2500 ans, donc depuis le 5e siècle à peu près avant Jésus-Christ en Grèce, l'être humain avait pris l'habitude d'organiser son environnement par forme. Forme au sens fort du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est intégré par des parties intégrantes, songez à un carré, ou bien songez à un corps humain, et qui précisément étant ainsi intégré, se détache sur le fond. Et troisième caractéristique, c'est que la forme ainsi perçue, ainsi saisie, eh bien la matière n'y est pas tellement importante. La matière n'est que le support de cette forme. Eh bien, c'est ce système qui a porté tout le classicisme grec, et encore tout le classicisme et le romantisme français, qui va, en quelques années, s'effondrer. Cet effondrement s'est passé encore bien en peinture. Le peintre est devant une toile, et il joue avec des éléments qui sont des éléments légers, et s'il veut transformer l'espace et le temps, eh bien, il peut le faire. Bien sûr, le public autour de lui ne le suivra plus, mais dans son travail lui-même, il trouve un certain accomplissement, et pour quelques personnes autour de lui. Tandis qu'en littérature, cette transformation va être beaucoup plus violente. Pourquoi ? Mais parce que le langage est quelque chose qui n'est pas tellement arbitraire, il y a toute une série de règles de langage, et si je me mets à changer la syntaxe, si je me mets à changer la morphologie d'une langue ou la sonorité d'une langue, eh bien, non seulement on ne me suivra plus, mais même cette opération est quasiment impossible à mener. Or, c'est bien de ça qu'il s'agit, nous sortons du système grec pour aboutir dans quoi ? Eh bien, je vous propose ceci. Nous pourrions appeler le monde grec le monde 2, celui qui est construit par ses formes, intégrées de parties intégrantes. Avant ça, il y a eu dans l'histoire humaine ce qu'on pourrait appeler le monde 1, le monde où l'être humain construisait par éléments agrégatifs, éléments vitaux. Mettons ça au concret. On pourrait dire que dans la Vénus de Willendorf, là, les sculptures tout à fait primitives, la tête appelle l'épaule appelle le sein, qui appelle le ventre, qui appelle la vulve, puis la cuisse, puis le mollet. Donc, les choses renvoient les unes aux autres par contiguïté. Dans le monde grec, au contraire, que nous appelons monde 2, chaque partie renvoie directement au tout. Si je regarde l'Apollon d'Olympie, l'épaule renvoie directement à la totalité de son corps, les jambes de même, les mains de même. Eh bien, ce sont ces deux systèmes avec lesquels, à partir de 1860-1870, l'être humain va rompre. Et il va travailler par ce qu'on pourra appeler des éléments en fonctionnement. C'est-à-dire que chaque élément ne renvoie plus à son voisin, il ne renvoie plus directement au tout, mais il renvoie à d'autres éléments qui peuvent être à distance. Nous allons appeler ça, je ne dis pas que le terme est excellent, mais des éléments fonctionnels. Ça fonctionne. Quelque chose est ici, renvoie à là-bas, qui renvoie à quelque chose qui est encore très loin ailleurs. Et en fin de compte, l'idée de break, l'idée de discontinuité, va jouer un rôle essentiel. Eh bien voilà, écoutons, la lune. Là, jusque-là, c'est très innocent. C'est la lune des romantiques. Mais écoutons bien, plaquet. Rien que la sonorité, déjà. Et puisque ça dessine, plaquet. C'est teinte. De quoi? De zinc. Et comment ça? Par continuité ou par totalisation? Non, par angle obtus. Nous sommes chez Verlaine. Nous sommes chez Verlaine dans une pièce qui est appelée Croquis parisien, et je prends évidemment cette pièce parce qu'elle est au tout début. C'est dans les poèmes saturniens. Des bouts de fumée. Ah, c'est pas la fumée comme un grand corps. Non, c'est des bouts de fumée. En forme de quoi? Eh bien, on va justement prendre le chiffre le moins intégrable. En forme de 5. Sortez de rues et noires des hauts toits pointus. Le ciel était gris, la bise pleurait, ainsi qu'un basson déjà, assez étrange, allait prendre précisément cet instrument un peu aberrant dans l'orchestre. Au loin, un matou frileux et discret miaulait d'étranges et grêles façons. Là, ce genre de termes vont maintenant s'imposer presque tout le temps. Tout va devenir ou étrange ou grêle, va appartenir à l'impondérable, précisément parce que nous n'arriverons plus à opérer ces intégrations qui avaient porté tout le monde classique, ni non plus ces conforts de pulsation qui avaient porté tout le monde antérieur au classicisme grec. Et la finale résume d'ailleurs toute cette situation. Moi, j'allais rêvant du divin Platon. Et de Phidias, et de Salamine, et de Marathon, petit résumé de tout le monde grec, avec lequel justement on rompt, sous l'œil clignotant, ah de quoi? Et qui met tout en l'air, qui crée cette rupture de l'espace, des bleus bêtes de gaz. C'est fait un nouvel espace. Ça fait en même temps un nouveau temps. Un temps beaucoup plus glissé et plus sautillant. De la douceur, de la douceur, de la douceur, calme un peu ces transports fébriles, ma charmante. Mes mots forts du déduit, parfois, vois-tu, l'amante, doit avoir l'abandon paisible de la sœur. Des mots d'ailleurs, comme parfois, vois-tu, vont devenir quasiment de règle, précisément pour faire en sorte que la durée ne soit plus totalisable. Et ça peut d'ailleurs vous donner un troisième ton. Mon Dieu m'a dit, mon fils, il faut m'aimer. Tu vois mon flanc percé, mon cœur qui rayonne et qui saigne, et mes pieds offensés que Madeleine baigne de larmes. Et mes bras douloureux sous le poids de tes péchés, et mes mains, et tu vois la croix, tu vois les clous, le fiel, l'éponge, et tout t'enseigne à n'aimer en ce monde amer où la chair règne que ma chair et mon sang, ma parole et ma voix. Tiens, voilà Debussy. C'est Debussy, mais c'est aussi les romans sans parole que cherchait à faire Lamartine. Ne t'ai-je pas aimé jusqu'à la mort moi-même, ô mon frère, ô mon père, ô mon fils en l'esprit, et n'ai-je pas souffert comme c'était écrit? N'ai-je pas sangloté ton angoisse suprême, et n'ai-je pas sué la sueur de tes nuits, lamentable ami qui me cherche où je suis? J'ai répondu, Seigneur, vous avez dit mon âme, c'est vrai que je vous cherche et ne vous trouve pas, mais vous aimez, voyez comme je suis en bas, vous dont l'amour toujours monte comme la flamme. Et voilà toujours la liaison de la phrase à la manière de Debussy. Et tout ça aboutit à un art poétique que nous connaissons bien, car nous voulons la nuance encore. Pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule fiance le rêve au rêve et la flûte au corps. Mais au moment où apparaît l'art poétique, tout est fini, et nous aurons sans doute encore un écho, mais un peu ailleurs. Un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Apollinaire. Mais, en fin de compte, pour réaliser cette rupture majeure dans le langage, il fallait sans doute un ivrogne. Cet ivrogne que fut Verlaine, ivrogne violent, qui jette sa femme enceinte à bas de son lit, quelques jours avant l'accouchement, qui tire sur son ami Rimbaud, et ivrogne mystique. Il a peut-être fallu aussi un adolescent. Et cet adolescent, nous le connaissons, c'est Rimbaud. Et je vais le prendre également par le début, quasiment historiquement. Nous sommes en 1870. Et qu'est-ce que nous entendons? L'orchestre militaire, au milieu du jardin, balance ses shakos dans la valse des fils. Il n'y a pas moyen de totaliser ce spectacle. Tout d'un coup, il y a des shakos, mais ces shakos sont comme indépendants les uns des autres. Autour, au premier rang, parade de le gandin, le notaire pend à ses breloques à chiffres. Ce n'est pas les breloques à chiffres qui pendent au notaire. Et nous retrouvons donc ici, dans la vision littéraire, ce que Degas allait accomplir dans la vision picturale. C'est-à-dire que jusque-là, d'une manière très grecque, c'est une femme qui a une chevelure. Pour la première fois, chez Degas, c'est une chevelure qui est une femme. Chacun des éléments du corps a sa vie à lui et ne renvoie d'autres à distance que d'après un fonctionnement. J'emploie le mot fonctionnement parce que c'est sans doute le terme le plus général créé par les Romains pour établir une relation. Le notaire pend à ses breloques à chiffres. Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins, je continue, la chair de leur cou blanc brodé de mèches folles. Je saute, j'ai bientôt déniché la bottine, le bas, je reconstruis les corps. Il ne construit pas comme un grec. Il n'agrège pas comme un primitif. Il n'est plus ni dans le monde 2, ni dans le monde 1. Il passe à un monde 3 où il reconstruit les corps brûlés de belles fièvres. Et toujours la même année, comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns, fortement pommadée d'une vieille baignoire, émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudé. Ces déficits sont fondamentaux. Et nous, d'ailleurs, la diction même du mot crée directement un éclatement de départ et un regroupement par fonctionnement. Puis le col gras et gris, je saute. Le dos court qui rentre et qui ressort, je saute encore. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Il ne s'agit plus de la globalisation du regard grec. Et voici la fin. Les reins portent deux mots gravés, Clara Vénus. Et tout ce corps remue, étend sa large croupe, belle, hideusement d'un ulcère à l'anus. Et voilà, toute la vision retournée. Il n'y a plus moyen d'intégrer cet ensemble. Et c'est ce que nous retrouvons dans des pièces apparemment plus visibles. On la connaît par cœur, le dormeur du Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes les haillons d'argent. Pâle dans son lit vert, où la lumière pleut. Et puis la fin, il a deux trous rouges au côté droit. Et je suppose que on suit la phonie pour voir à quel point elle introduit maintenant ce break qui va être l'essentiel de cette perception nouvelle et qui crée un temps nouveau. Ta poitrine sur ma poitrine, hein ! Nous irions, ayant de l'air plein la narine, nos vrais rayons. On voit la scène, hein, ta poitrine sur ma poitrine, nous irions. Je m'en allais les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. En 71, parce que ce n'est pas fini, ceci n'est qu'un début. En 71, le ton monte. Entrechoquez vos genouillères, mes laidrons. Vos omoplates se déboîtent, ô mes amours. Une étoile à vos reins qui boit, tournez vos tours. Et c'est pourtant pour ces éclanches que j'ai rimé. Je voudrais vous casser les hanches d'avoir aimé. Et comme commentaire, il écrit à son professeur Isambard, « Maintenant, je m'en crapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. « J'ai » est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon. Et il insiste dans la lettre à Demeny, car je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairant, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident, j'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet, la symphonie fait son remuement dans la profondeur, ou vient d'un bond sur la scène. Il s'agit maintenant donc de faire une poésie, non plus qui décrive ce qu'on pouvait faire particulièrement bien dans le monde de la forme, dans le monde d'eux, ou même dans le monde de l'élément agrégatif vital, le monde 1. Il s'agit maintenant de faire ce monde. Tiens, c'est bizarre, ça sonne exactement comme le mot de Marx un peu avant. Il ne s'agit plus pour le philosophe de décrire le monde, il s'agit pour lui de le faire. Alors, quel va être le grand modèle? Eh bien, c'est la Grèce primitive. En Grèce, et je dis, c'est toujours la lettre à Demeny. Vers et lire, rythme, l'action. Après, musique et rime, son jeu et délassement. Attention, lui ne dit pas « et », son jeu, virgule, délassement. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, et lui envoie la pièce dont nous avons lu la fin, un hydrolat lacrymal lave les cieux vers choux, et qui terminait par « Entrechoquez vos genouillères, mes laidrons !» Alors, qu'est-ce que c'est, cette action poétique? C'est de réinventer les couleurs, les sons, en les mettant en fonctionnement, justement. Ce type de fonctionnement que nous essayons de décrire depuis le début, ce fonctionnement du monde 3, et qui donne A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, dans un système assez évident, hein. Bon, il est certain que les couleurs, c'est quoi? Les couleurs, c'est le noir et le blanc. Quels sont les deux grands extrêmes en français? Ben, le noir, c'est évidemment le plus compact, c'est le A. Qu'est-ce qu'il y a? Le contraire de ce A en français, ce qui est le plus creux, le plus vide, c'est E. Et donc, en noir, en blanc. Alors, pour les couleurs elles-mêmes, ben, c'est simple aussi. Le haut complet, le ciel immense et rond, ne peut être que le bleu, bien sûr. Et il reste quoi? Eh bien, dans la couleur, il y a le contraste maximal, qui est celui des complémentaires, donc du rouge et du vert. I rouge, U vert, puisqu'il est bien entendu que le U ne va pas être rouge et que le I ne va pas être vert. Et tout suit, voyelle, je dirais quelques jours, vos naissances latentes, et bien sûr, ça se terminait dans un poème qui semble être un poème d'amour. Oh, suprême clairon plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, oh, l'oméga, rayon violet. de ses yeux. Alors voilà, ce moment, bien sûr, j'ai savez-vous, d'incroyable Floride. Mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux, j'ai vu fermenter les marais énormes nasses où pourrit dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. La cramour m'a gonflé de torpeur enivrante. Oh, que ma quille éclate! Oh, que j'aille à la mer! Vers somptueux, évidemment, de facture, hein, tout le jeu sur le A de éclate, mais le I de qui, les deux étant repris, le A et I dans le jaille, avec le mot le plus concluant à peu près du français, à la mer. Mais nous ne sommes toujours pas tout à fait au bout. En 72, c'est là. Dernière folie. Aucun des sophismes de la folie qu'on enferme, n'a été oublié par moi. Je pourrais les redire tous. Je tiens le système à chaque être. Plusieurs autres vies me semblaient dues. Ce monsieur ne sait ce qu'il fait. Il est un ange. Cette famille est une nichée de chiens. Devant plusieurs hommes, je causais tout haut avec un moment d'une de leurs autres vies. Ainsi, j'ai aimé un porc. Alors, ou bien on dit naïvement, le porc c'est Verlaine, c'est le moment maximal de l'aventure avec Verlaine, ou bien il s'agit de quelque chose de beaucoup plus vrai, c'est-à-dire j'ai été jusqu'à la zoophilie. Au moins intentionnellement, cette zoophilie devant laquelle nous reculons à tel point que dans toute l'histoire du cinéma, il n'y a, je crois, que le film « Vase de noces » de Zeno qui ait osé aborder le thème. Ainsi, j'ai aimé un porc. Et en même temps, à ce moment, s'annonce un retournement. À quoi on pourrait raccrocher les illuminations? Mais en comprenant bien, illumination, nous dit Verlaine, painted plates, gravure coloriée, ce qui va de pair avec ce texte qui se trouve dans toutes les anthologies que je ne rappellerai pas. C'est à ce moment que j'ai commencé à aimer les dessus de portes, les peintures idiotes. C'est-à-dire que l'immense courbe de cette crise d'adolescence commence à venir à son involution. Il y a là quelque chose de très bizarre. À travers ces citations, je suis en train de parler de l'année 72 à travers une saison en enfer qui est de l'année 73. Et pour autant, nous allons assister à un énorme déplacement. On connaît la pièce de 72. Elle est retrouvée, quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Or, dans cette saison en enfer de 73, cette strophe devient « Elle est retrouvée, quoi? L'éternité. C'est la mer mêlée au soleil. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le vers « C'est la mer mêlée au soleil » est un vers beaucoup plus probable que « C'est la mer allée avec le soleil ». probable, donc plus prévisible, plus banal, plus régularisé. Mais ça continue. En 72, il avait écrit « Âmes sentinelles, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu », qui devient en 73 « Mon âme éternelle, observe ton vœu malgré la nuit seule et le jour en feu. » Encore, en 72, « Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale, sans qu'on dise enfin, et qui devient maintenant en 73, plus de lendemain, braise de satin, votre ardeur est le devoir. » Une rime même plus. Alors comment interpréter ça? Ou bien on dit « perd la mémoire ». Oui, c'est peu probable. Puis il écrit quand même temps la saison en enfer. La saison en enfer n'est pas l'écrit de quelqu'un qui a perdu ses moyens. Donc il s'agirait d'une inversion beaucoup plus profonde, de quelqu'un qui se réoriente. Et effectivement, nous touchons à peu près à la fin, à ce moment où Rimbaud va prendre au sérieux ce qu'il avait écrit à Isambard dès le début, « Je suis un travailleur », mais en ajoutant, en 70, « Mais pas tout de suite, pour l'instant je fais la grève ». Mais en 73, le paysan de Charleville, ce paysan aventurier, ce paysan polyglotte, mais qui a aussi en lui un côté très technicien, va, semble-t-il, se tourner vers l'effectuation. Il avait dit que pour lui, la poésie était effectuante, qu'elle était une transformation du monde. La transformation qu'il avait voulu opérer, il l'a faite. Il a fait passer ce que nous appelions le monde 2 au monde 3. Le travail est fini. Il va pouvoir maintenant exercer cette attitude de technicien, polyglotte, aventurier, paysan, à travers les voyages qu'on sait, de par le monde, mais très particulièrement en Afrique. En fin de compte, la crise d'adolescence d'un individu a coïncidé très exactement avec une crise majeure de civilisation. On connaît la fin, aussi radicale que cette expérience même, le sarcome osseux. Et moi, qui justement avais décidé de rentrer en France cet été pour me marier, adieu mariage, adieu famille, adieu avenir, ma vie est passée, je ne suis plus qu'un tronçon immobile, c'est le lit d'hôpital de Marseille, de l'homme entièrement paralysé, que j'évoque, parce que sur ce lit, d'après Isabelle Rimbaud, il répétait « Allah Kerim ». Allah est Kerim, Kerim, c'est celui qui est omniscient, celui qui comprend tout dans sa connaissance et dont les voies sont impénétrables. Si on veut rester rimbaldien, surtout, il ne faut pas traduire Allah par Dieu et bien maintenir Allah.